Bonjour à tous, je suis Jonathan Ciboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Godfrey Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous accueillons un spécialiste du luxe et de la beauté, Joël Palix. Bonjour.
Bonjour Olivier, merci de m'accueillir.
Joël, vous êtes vous dirigez votre propre société qui s'appelle Palix Unlimited.
Oui, c'est effectivement mon activité actuelle. Je me suis lancé il y a 3 ans après Fil Unique, qui était ma dernière grande expérience professionnelle comme patron.
Oui, aujourd'hui vous êtes un jeune entrepreneur, mais vous avez un parcours de manager et de décideur assez exceptionnel dans la beauté et dans le luxe. On va décrypter tout ça ensemble dans les prochaines dizaines de minutes. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai regardé votre parcours, j'ai vu que les débuts de votre aventure professionnelle, vous les avez pas faites au sein du luxe ou de la beauté. Vous avez travaillé pour une agence gouvernementale. Est-ce que vous pouvez raconter ça?
Oui, moi j'ai toujours eu en tête de faire une carrière internationale. Et quand on est un jeune étudiant fraîchement émoulu de l'école supérieure de commerce de Paris, je voulais partir à l'international, et puis j'avais une obligation de service militaire et j'ai eu la chance de pouvoir faire un service un peu particulier, à la fois service national et contractuel de l'État pendant 2-3 ans à Houston, au Texas.
Et donc, qu'est-ce que vous faisiez à Houston?
Alors, je travaillais pour ce qui s'appelait la DATAR et pour une agence qui s'appelait French Industrial Development Agency. Et en fait, j'allais prospecter les industriels américains pour les convaincre de venir investir dans un pays socialiste qui s'appelait la France. Donc, c'était une mission assez difficile, mais pour un jeune cadre comme moi qui démarrait, c'était très excitant. Et puis, je découvrais le Midwest américain et puis aussi la communauté mexicaine, parce que je vivais à Houston et ça, c'était assez sympa.
Qu'est-ce que vous avez gardé de cette époque-là et combien de temps ça a duré? Vous êtes resté après aux États-Unis?
Alors, ça a duré 2 ans et demi. J'étais déjà en position de responsabilité, à gérer un bureau, à reporter un patron à New York. Je devais rencontrer des décideurs alors que j'étais bien sûr très jeune. Donc, je pense que ça m'a fait gagner en maturité. Ça m'a donné probablement un peu d'ambition. Et puis j'ai appris ce que c'était de convaincre, parce que la tâche n'était pas facile. Je ne pouvais pas rester aux États-Unis parce que j'avais un statut de diplomate, donc je n'avais pas de carte verte pour rester là-bas. Et donc, quand je suis rentré en France, je voulais absolument travailler pour une belle société française qui serait forte à l'export.
Et c'est là que vous avez commencé votre aventure dans le luxe et la beauté. Comment vous êtes rentré dans cet univers-là? Ça a toujours été un univers qui vous intéressait ou ça a été une opportunité à ce moment-là?
Je pense les deux, beaucoup une opportunité, mais aussi cette idée que je voulais vendre la France et vendre des beaux produits français où on serait reconnu. Et bien sûr, la mode, la beauté, c'était un domaine d'excellence de la France.
À ce moment-là, ça se passe comment? Vous cherchez, vous trouvez une petite annonce ou vous avez déjà des contacts dans le secteur et vous avancez?
Ah, j'ai complètement cherché par annonce et je me rappelle que au moment des entretiens, on m'a dit « Bon, monsieur Palix, on va vous prendre, mais vous savez, il y a un gel des embauches, donc on peut faire qu'un CDD, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et je suis parti avec un CDD chez Saint-Laurent et puis ça s'est transformé bien sûr en une belle carrière chez cette belle marque.
Donc, vous commencez chez Saint-Laurent. Là c'est quelle époque? Quelle est l'ambiance chez Saint-Laurent quand vous arrivez?
Alors, je suis arrivé en 85. Saint-Laurent appartenait encore à un groupe pharmaceutique américain qui s'appelait Squibb. Et peu de temps après, Pierre Berger arrive à racheter la filiale de Squibb qui s'appelle Charles de Ritz, qui possédait Saint-Laurent. Et donc, réunit pour la première fois la mode et les parfums, la beauté Saint-Laurent. Donc, changement complet d'ambiance, puisque à la place d'être une filiale d'un groupe américain, on devenait une grosse PME française avec un leader, bien sûr, très charismatique, qui était Pierre Berger. Et parmi les personnes qui, bien sûr, ont été mes mentors, lorsque je suis arrivé chez Saint-Laurent, il y avait Chantal Ross, qui est une power woman, qui m'a vraiment appris à être probablement ambitieux, exigeant, mais aussi Pierre Berger, qui est ensuite devenu mon patron quand je suis parti pour Saint-Laurent en Espagne.
Comment, quand vous arrivez, votre mission, votre premier job, c'est quoi?
Alors, le premier job, c'est chez Saint-Laurent. On m'a mis en charge du travel retail, à l'époque on l'appelait duty free, anglais, qui était une grosse zone export. Et donc, j'allais visiter les acheteurs des aéroports, des ferries, des compagnies aériennes pour référencer et suivre l'activité de Saint-Laurent Beauté. Donc, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, chef de zone export. Ensuite, je me suis occupé, je crois, du Portugal. Et puis au bout de 3 ans, je voulais faire un MBA. Donc, j'ai été frappé à la porte de la DRH et on m'a dit, monsieur Palix, c'est pas trop le style de la maison de payer des MBA.
Donc, pas de CDI, pas de MBA. C'était
une affaire familiale. Et donc, là, j'ai fait mon premier bold move. Et j'ai dit à Yves Saint-Laurent, je m'en vais, je vais aller faire mon MBA tout seul. Et donc, j'ai réussi à trouver un organisme de formation et puis faire des économies. Et puis, je suis parti faire l'INSEAD pendant un an à Fontainebleau. Très, très belle expérience et belles amitiés aussi, parce qu'on rencontre des gens formidables là-bas.
Et c'était important pour vous dans l'évolution de passer ce cap-là, d'avoir un MBA, d'avoir le tampon du MBA?
Non. En fait, c'était plutôt un petit pari que je m'étais fait, parce que quand on voulait rentrer comme ça dans des écoles, grandes écoles parisiennes, normalement, on faisait 2 années de prépa. Et puis moi, j'avais réussi en un an. Et donc, j'avais une sorte d'année d'économiser. Donc, je m'étais dit, cette année, je la reprendrai pour finir mes études.
C'était un bonus.
Voilà, c'était le bonus. Et donc, je me suis dit, allez, fais-le. Et les circonstances tout à fait amusantes ont fait que quand je suis sorti de l'INSEAD, un chasseur de tête à Madrid m'a appelé et m'a dit, une grande maison de luxe cherche son directeur marketing. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Donc, j'ai été à Madrid. Et puis, de fil en aiguille, au fil des entretiens, la direction marketing s'est transformée en une proposition de direction générale qui était pour Saint-Laurent. Donc, retour aux sources. Et donc, très jeune, puisque j'avais 30 ans, on m'a donné la responsabilité de piloter la marque Yves Saint-Laurent, à la fois mode et beauté, en Espagne.
Quelle est la mission à ce moment-là? Qu'est-ce que représente Saint-Laurent? Parce que le marché du luxe a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Donc, quand vous prenez la marque en Espagne à ce moment-là, ça représente quoi et quels sont les challenges?
Alors, c'était pas une très grosse filiale. Il y avait un joli business parfum, essentiellement. Un petit peu d'activité mode, quelques licences qui traînaient par-ci par-là. Il y avait une usine qui était là parce que il y avait encore des droits de douane pour vendre en Espagne, donc il y avait un outil de production. Et dès que j'arrive, je constate qu'il n'est pas aux normes, qu'il nous coûte très cher et de manière un peu rapide, comme peut-être quand on est un peu jeune cadre comme ça, on prend des décisions assez hâtives. Mais j'ai annoncé au siège qu'on allait fermer l'usine. Ça a été un peu le branle-bas de combat. Et puis finalement, tout le monde s'est rallié à l'idée de fermer cette usine. Donc ça a été une première décision managériale importante. Ensuite, j'ai nettoyé la distribution, parce que souvent dans ces pays où en fait, on passait d'un agent à une filiale. Donc c'était la création d'une filiale. Donc, il fallait nettoyer. Et puis, peut-être une anecdote que j'aimerais bien partager. Lorsqu'on a fait ce travail, j'ai dit, maintenant, il est temps d'investir dans la marque. Il est temps que la marque ait un vaisseau amiral à Madrid, puisqu'elle n'avait pas de belles boutiques. Et donc là, j'envoie un fax. À l'époque, on était encore dans les fax. Oui. J'envoie un fax à la maison de couture. Et je dis, Mon ami Louis Hurvois, qui était le patron de l'OEV, m'a indiqué que il y avait une boutique qui allait se libérer sur la calle Serrano, qui est la belle avenue de Madrid. Il faut vite se dépêcher de la prendre. Et là, quelques jours plus tard, on m'annonce la venue de Pierre Berger avec son jet privé. Donc moi, je me dépêche d'organiser la limousine, la visite des points de vente du quartier, de faire tous les PNL possibles et imaginables. Et Pierre Berger arrive et on rentre dans la limousine et il me dit « Alors, je suis venu pourquoi ?» Alors, je lui dis « Voilà, monsieur Berger, je voudrais vous proposer que vous investissiez dans un bail pour une belle boutique qui va pour la première fois réunir la beauté, les accessoires, la mode. » Et là, il me dit, Monsieur Palix, vous y croyez? Et je lui dis, oui, absolument. Et j'ai peut-être résumé en une phrase pourquoi j'y croyais. Et il m'a dit, c'est parfait. On fait quoi aujourd'hui? Et donc, on n'a pas été voir les boutiques, on n'a pas été voir le quartier commerçant, on est allé faire les musées. Et j'ai trouvé que c'était un acte de management qui était magnifique et qui m'a beaucoup inspiré. Et je pense que ça fait partie, bien sûr, des mentors que j'ai traversés dans ma carrière.
Quand vous dites qu'il vous a beaucoup inspiré, notamment par rapport à cette anecdote-là, c'est parce qu'il y a la possibilité, donner la possibilité
faire confiance. Au manager. Il était très exigeant. Il savait se séparer de gens quand ça n'allait pas, attention. Mais on est trop payé pour ne pas prendre des bonnes décisions. Je crois que c'était ça le message. Et je trouve que... En termes d'esprit de management, oui, il y a des choses à apprendre, là.
En tant que jeune manager mis en confiance, qu'est-ce que vous avez appris dans ces premières années, justement, de direction? Quelles ont été les étapes importantes pour vous dans cette période-là?
À cette époque-là, j'étais plutôt dans une phase d'ambition, de résultats, de performance. Et c'est aussi ce qu'on attendait de moi. C'est à ce moment-là que j'ai aussi commencé à développer plus mon côté esthétique. Lorsque je suis revenu à Paris, parce qu'au bout de quelques années, on m'a demandé de quitter l'Espagne pour reprendre la direction générale France, j'ai ouvert une galerie d'art contemporain qui montrait de la photo, de l'art digital, des choses assez pointues. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aussi avoir un volet plus esthétique et de m'intéresser un petit peu à la technologie, en fait.
C'est-à-dire, à l'époque, ça voulait dire quoi, s'intéresser à la technologie?
J'ai rencontré des artistes qui faisaient déjà du digital art. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ces sujets-là. Le numérique, bien sûr... commencer à parler du web qui arrivait. Et comme je pense, je suis assez curieux de nature. J'aimais bien la tradition du beau, mais j'aimais bien aussi les promesses du futur.
Et à quel moment ça vous a tellement intéressé que vous vous êtes dit « faut que je passe à une étape différente de ma carrière »
Les circonstances ont fait que, après 10 ans... chez Saint-Laurent, en incluant la parenthèse INSEAD. La maison Saint-Laurent a été revendue à Sanofi. Et Sanofi, c'était un gros pharmaceutique avec des objectifs très différents, des pratiques business qui n'étaient pas celles d'avant. Et moi, j'ai une éthique professionnelle très, très forte. J'aime pas faire des choses que je trouve pas correctes pour une marque. Et donc, j'ai préféré partir. Et là, les circonstances ont fait qu'on m'a appelé pour un job qui était complètement atypique, qui était patron du développement des Trois Suisses. Et donc, fallait diriger un studio numérique, fallait lancer le web et le e-commerce, s'occuper de catalogues spécialisés.
Rien à voir avec la maison de luxe, en fait.
Rien à voir avec la maison de luxe, mais l'idée, c'était on a besoin d'un homme de marque qui vient de l'extérieur, qui n'est pas dans le métier du catalogue, pour justement penser différemment Trois Suisses. Il y avait deux patrons très inspirants, Emmanuel André et Daniel Richard, qui étaient des personnalités aussi. Et voilà, ils voulaient quelqu'un qui soit pas du sérail. Et moi, ça m'allait bien.
On était déjà dans la période où les VA10 devaient se transformer.
On était au tout début. La menace n'était pas encore là. Il commençait à y avoir plutôt la menace des Zara et des H&M, voilà, toutes ces enseignes très intégrées qui accéléraient le rythme de la mode. Et donc, les gros catalogues devenaient un petit peu obsolètes à cause de ça. Et donc, justement, on m'a demandé de trouver des solutions pour accélérer la production du catalogue papier. Donc, on a monté ce qu'on a appelé la cité numérique, qui était une sorte de mise en chaîne de la production du catalogue pour pouvoir ajuster au dernier moment les prix, notamment. Mmh. Et puis, on m'a mis comme mission d'initier l'activité e-commerce.
Oui. Ça voulait dire quoi, initier les activités? C'était une exploration?
Ça voulait dire exploratoire. On ne pouvait pas le faire de manière intégrée avec le gros catalogue parce que c'était beaucoup trop compliqué. Donc, on a commencé à faire une activité parallèle qui s'appuyait sur des stocks du gros catalogue pour faire du e-commerce. Et puis, expérimenter. On était un peu un laboratoire, en fait, pour le groupe 3 Suisses. Donc, je me rappelle, parmi les aventures amusantes, on a fait le catalogue, et j'ai réussi à négocier, je ne sais plus comment, on a fait le catalogue des produits dérivés de la Coupe du Monde 98,
d'accord,
avec un site de vente e-commerce mondial.
D'accord.
Ce qui était quand même extraordinaire pour l'époque. Donc voilà, quelques initiatives. Il y avait le Club des créateurs de beauté, qui était une joint venture entre les Trois Suisses et L'Oréal. Donc, j'avais de quoi m'occuper. Mais en même temps, c'est vrai que c'était difficile de faire bouger.
À l'époque, c'était un énorme navire.
Un gros navire, un peu traditionnel quand même, comme Trois Suisses. Et je ne savais pas dès que j'ai pu, mais assez vite, j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose d'entrepreneurial cette fois-ci, vraiment, et de créer une start-up.
C'était quelque chose que vous aviez dans la tête ou c'était plutôt l'enchaînement de vos expériences qui vous a mené à ça?
Bon, je pense que j'ai beaucoup de curiosité de nature, j'ai pas peur du risque, j'aime toujours apprendre. Donc, être entrepreneur, c'était intéressant. J'avais pris l'option création d'entreprise, je crois, dans mon école de commerce. Donc, ouais, je devais avoir ça en moi. Et puis, devenant un des pionniers du commerce électronique en France, naturellement, les opportunités sont arrivées. Il y avait des capitaux risqueurs qui s'intéressaient à ce que je faisais. Et donc, on a, avec mon frère Christian, lancé une start-up qui s'appelait Clust.com.
Et qui faisait quoi?
Alors, c'était du social commerce avant l'heure. Un peu trop tôt, je pense.
C'est-à-dire?
On pouvait se regrouper pour acheter moins cher. Mais on pouvait même se regrouper pour commander ou créer des produits qui n'existaient pas. Donc, c'était très, très
révolutionnaire. De la précommande, en fait.
Comment?
Quasiment de la précommande qui est...
Oui, c'est ça. C'est
aujourd'hui
ça.
Très développée.
Donc, c'était un peu du Groupon avant l'heure. À l'époque, tout le monde essayait des nouveaux modèles. Les capitaux risqueurs vous incitaient à partir sur des modèles un peu innovants. Je pense que ceux qui ont fait un bon site de e-commerce de base ont peut-être plus réussi que Clust. Mais en tout cas, on s'est fait remarquer. Et puis, ça a été une très belle aventure. Et ça m'a, entre Trois Suisses et Clust, j'ai vraiment appris ce qu'était la relation client, le CRM, la data et la technologie.
D'accord. Et ça a duré combien de temps?
En tout, 7 ans, la période de Trois Suisses et Clust.
D'accord. Et Clust, à quel moment ça s'est terminé? Quelle expérience vous avez eue sur la fin de vie de la startup?
En fait, on était poussé par les capitaux risqueurs à internationaliser assez vite parce que, soi-disant, pour intéresser des capitaux ultérieurs, il fallait déjà montrer que le business marchait pas simplement en France. Donc, à un moment, on a été à court de liquidité. Donc, éclatement de la bulle, on n'est pas très éloigné de ce qui se passe en ce moment pour des startups qui sont, par exemple, dans le Web3.
Oui.
J'ai vécu ça et je sais qu'il y a toujours un hiver et puis derrière l'hiver, il y a le printemps qui renaît.
Oui, au moins, vous avez la vision de long terme là. Vous savez que cette période de chute, d'injection de capitaux, elle est pas infinie. Ça va revenir.
Oui, oui, ce sont des cycles. Ça oblige les entrepreneurs à se remettre en cause, à rester bootstrappés, à revenir à des modèles plus de rentabilité que de croissance. Je pense que c'est un nettoyage assez sain, en fait. C'est comme faire un bon jeûne.
Oui.
Moi, je suis adepte du jeûne de temps en temps et je trouve que c'est une bonne manière de penser sa vie, de temps en temps faire des, des ruptures pour se remettre en cause. Et puis ensuite, on repart plus frais, plus léger.
Vous repartez plus frais et vous repartez vers la beauté.
Alors naturellement, après une aventure comme ça, il fallait que je me refasse un peu les poches,
oui.
comme on dit. Et j'avais cette expérience beauté qui était quand même assez confirmée, et puis une compréhension du CRM. Et c'est le groupe Clarins qui m'a demandé de les rejoindre pour diriger Thierry Mugler.
D'accord.
Au départ, c'était uniquement Thierry Mugler et la partie parfum. Parce que Thierry Mugler, c'est une marque atypique avec ce qu'ils appelaient le cercle, qui était une communauté d'acheteurs des parfums Mugler. En fait, la marque Mugler n'avait pas été lancée à coup de publicité et de campagne télé. Elle s'était vraiment construite un peu par le bouche à oreille et beaucoup par la communication client.
Oui.
Et donc, j'avais, plus que beaucoup de gens dans la beauté, cette connaissance du CRM. Et donc là, j'ai rencontré une autre mentor dans ma vie professionnelle, qui a été Vera Strubi, qui était la fondatrice, en fait, des parfums Mugler, qui avait créé en 92 Angel.
En quoi elle a été mentor pour vous?
Alors... Elle m'a appris vraiment d'autres valeurs, la générosité, aimer les gens, voilà. Elle avait une personnalité très différente des mentors précédentes. Vous savez, vous obtenez parfois beaucoup plus en creux qu'en voulant à tout prix. Oui, j'ai appris la patience, la durée, prendre le temps de faire des belles choses. Et puis, cette idée que ce qu'on donne, on le reçoit ensuite. Et donc, ce daily love, après, je l'ai beaucoup appliqué dans le reste de ma vie et dans ma vie professionnelle aussi. Et c'est aussi important que l'ambition.
Comment ça se passe chez Clarins? Vous sortez d'une aventure entrepreneuriale et là vous rejoignez un groupe familial. C'est pas tout à fait le même cadre, c'est pas tout à fait le même rythme. Comment vous retrouvez vos marques de dirigeants?
Alors Mugler, c'était une PME, hein, on faisait, je sais pas, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça restait une petite équipe. L'activité parfum avait toujours été assez périphérique. Chez Clarins, c'était d'ailleurs une société à part. Vera Strubi avait un management très familial, un peu matriarcal, on pourrait dire. Et ce qu'elle m'a demandé, c'est de justement commencer à changer la culture de Thierry Mugler, parce qu'il y avait des ambitions plus fortes et il fallait qu'elle puisse peut-être se détacher de personnes qui l'avaient accompagnée au début. Donc j'étais là pour professionnaliser, on peut dire, et pour construire une affaire de parfum qui soit beaucoup plus forte.
Et alors, avec succès?
Oui, ben ça a été 10 ans magnifiques. Oui. Au bout de quelques années, Vera Strubi m'a donné complètement les commandes. Elle est partie à la retraite, et aussi le groupe Clarins, à un moment. A décidé de réunir toutes ses activités parfums sous une seule société qui s'appelait Clarins Fragrance Group. Et j'en suis devenu le président. Pendant ces 10 ans, on a eu une très belle trajectoire de croissance, de rentabilité. On a lancé un deuxième parfum aux côtés d'Angel qui s'appelle Alien, qui a eu un immense succès. Donc ça, c'était une très belle création. Et dans le parfum, c'est pas toujours facile de réussir un deuxième après un grand, grand parfum. Donc, on a réussi ça. On a eu aussi des échecs hein, dans la vie des marques de parfum.
Justement, j'aimerais que vous partagiez ça. Qu'est-ce qui fait la réussite d'un parfum, finalement? Parce que forcément, si on lance un parfum, c'est qu'on y croit. Donc, qu'est-ce qui fait sa réussite? À quel moment le consommateur, le grand public adhère à ce que vous proposez?
Alors, quand on écoute les professionnels des grandes marques classiques, ils disent souvent que les trois premiers mois sont décisifs. C'est-à-dire qu'il faut faire une énorme campagne, faire beaucoup de bruit, aller chercher une très grande célébrité qui va incarner le parfum, faire beaucoup de tests pour que le produit plaise à un maximum de gens. Nous chez Mugler en particulier, d'une part parce qu'on était avec un actionnaire, la famille Courtin, qui est prudente et qui est plus dans une culture du soin où c'est un travail de longue haleine de construire une marque. Et puis d'autre part parce que Mugler, c'est très atypique, donc on cherche pas du tout à plaire à tout le monde. On lançait des parfums rarement et de manière très lente. On disait en anglais « slow burner ».
Okay.
Donc, quand on a lancé Lien, on s'est donné les moyens de nos ambitions, mais on y est allé progressivement parce que on savait qu'avec un nom comme Lien, c'est pas évident de tout de suite toucher un grand nombre de clientes. Et donc, le succès s'est fait sur 2-3 ans. Mais à la longue, Lien est arrivé à un chiffre d'affaires qui était proche de celui d'Angel. Donc, c'était une vraie, vraie belle réussite. Et on l'a fait à la Mugler, c'est-à-dire avec un très beau flacon, des jus de grande qualité. Voilà, un bel accord, comme on dit, pour ce parfum. Et puis, bon, il y avait bien sûr les belles créations, mais il y avait aussi tout un travail d'organisation, de rationalisation, parce qu'on a créé cette division parfum pour qu'elle gagne plus d'argent, qu'on mette en commun un certain nombre d'équipes commerciales, qu'on gagne en autonomie encore plus vis-à-vis de Clarins pour être performant sur les marchés mondiaux, parce que le parfum et le soin, ce sont quand même des métiers un petit peu différents.
Donc oui, structurer tout ça et pouvoir toucher plus largement et de manière plus ciblée la clientèle.
Oui, on était quand même une division très rentable pour Clarins. Oui. Et c'était un des objectifs. Alors, il y a quand même eu une autre histoire en parallèle. C'est la mode. Parce que Clarins avait racheté à la fin des années 90 la mode Mugler.
Oui.
Pour avoir une complète maîtrise sur la marque. Mais au début des années 2000, la mode est devenue très déstructurée. Et puis, il y a eu plein de nouvelles marques et de nouveaux créateurs très en vue. Et Mugler, ça ne parlait plus. Donc, il a fallu fermer. C'est arrivé peu de temps après mon arrivée, je crois que c'était en 2003. Il a fallu fermer la mode Mugler.
Et donc, en termes d'image, ça faut quand même le gérer, ça. Faut quand même le faire passer, le faire comprendre.
Oui, je dirais que les gens s'en sont pas trop rendus compte parce que ça faisait déjà quelques années qu'on parlait moins de Mugler. Mais moi, en tant que dirigeant de la marque, notamment côté parfum, je m'inquiétais que les jeunes, à la longue, ne connaissent pas Mugler.
Oui.
Et est-ce qu'on peut vendre du parfum à des gens qui ne connaissent pas même le nom de la marque? C'est quand même un sujet. Mais mes actionnaires, donc la famille Courtin, avaient clairement mis le holà en disant « bon, on a suffisamment perdu d'argent dans la mode, on se concentre sur les parfums ». Il y avait aussi la personnalité de Monsieur Mugler, qui, heureusement, était passionné de parfums et donc a toujours été très impliqué dans la création d'Angel, dans la création d'Alien et de tous nos parfums, mais qui ne voulait plus entendre parler de mode. Donc, exercice d'équilibriste, comment reparler de la marque sans créateur, sans argent? Et là, il y a une succession d'événements qui sont arrivés. Et moi, je crois toujours à tous ces signaux faibles et il faut écouter les énergies. Donc, en 2008, il y a eu une très belle exposition au Met, au Costume Institute du Met, Superheroes, Fashion and Fantasy. Je connaissais Andrew Bolton, le commissaire, et donc J'ai beaucoup poussé pour que Mugler soit bien représenté pendant cette exposition. Il l'était et c'était légitime parce que qui mieux que Monsieur Mugler pouvait incarner cette mode des super-héros.
Oui.
Et Beyoncé visite l'exposition et on entre en contact avec son agent et on lui propose. Et je me dis, si on peut pas faire de mode, on peut au moins faire des costumes. Et donc j'en parle à Thierry Mugler qui trouve ça intéressant. On loue de suite au même étage au Meurice et on organise la rencontre entre Beyoncé et Thierry Mugler. Et ça a débouché sur Thierry faisant plus de 50 costumes pour le Fash, ça s'appelait I Am Fierce, je crois, le tour, en 2009. Et on commence à reparler de Mugler, parce que tout d'un coup, Beyoncé, qui quand même était une star qui parlait aux jeunes, faisait appel à un vieux designer comme Thierry Mugler.
Un designer qui n'était pas forcément...
Voilà, c'est inattendu.
Bonjour.
Et puis moi, je creuse un petit peu le sujet, et puis j'arrive à convaincre... comme on avait bien réussi dans le parfum, j'arrive à convaincre le groupe Clarins de remettre quelques billes dans la mode en disant il faut au moins qu'on ait une activité de mode, sinon qui va vraiment faire un business, du moins qui va pouvoir faire parler de la marque.
Racontez-moi à quel point c'est important cette activité mode, parce qu'on le voit aujourd'hui avec beaucoup d'éléments, que ce soit sur la maroquinerie ou sur la beauté. La mode est toujours là, porte un propos pour les différentes catégories de produits.
C'était mon avis, c'est-à-dire que durablement, c'est compliqué pour une marque de parfum d'exister dans le vide. Mmh. Alors, dans le cas de Mugler, il n'y a pas le vide, parce qu'il y a un tel univers imaginaire que ça peut nourrir la marque pendant des années. Mais je pensais à des futurs parfums, je pensais à des futures générations. Je trouvais que... avoir quand même une activité, même d'image, même de communication, ça soutenait la marque. Mmh. Et donc, avec des moyens limités, on a réussi à relancer la mode Mugler. Ça a été les premiers pas. Et bon, c'est toujours pareil, hein, c'est remettre la roue en marche, c'est toujours le plus difficile. Mmh. Donc, on a fait appel à un styliste qui s'appelait Nicolas Formichetti. Et puis, je crois que c'était en 2010... on a fait un nouveau défilé pour Mugler et Nicolas Formichetti a fait venir Lady Gaga qui a défilé pour Mugler, qui a fait la bande-annonce du défilé. Et puis on a relancé la marque comme ça. Ça faisait du bruit, ça faisait pas beaucoup de ventes. mais au moins on en parlait. Et puis ce que je me dis, c'est que ça a été premier pas pour reparler de Mugler. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, et avec d'autres designers très talentueux, on parle de Mugler comme une marque très contemporaine. Elle signe avec H&M.
Depuis 3 saisons, c'est redevenu une marque contemporaine.
Il a fallu plusieurs coups, et ça c'est assez classique pour qu'une marque renaisse. Mais il a peut-être aussi fallu... Et bien sûr, je pense à lui, le décès de Thierry Mugler, pour aussi libérer l'expression de la marque en mode. Parce que c'était pas facile de relancer la mode Mugler tant que Manfred, puisqu'il s'appelait comme ça à l'époque, était vivant. Donc, tout un travail un peu d'équilibriste. Mais bon, ça s'est terminé aussi par cette magnifique exposition au Musée des Arts Décoratifs qui montre ce qu'a apporté Thierry Mugler dans l'histoire de la mode, qui est remarquable.
C'est sûr que c'était une superbe exposition. Votre aventure Clarins, ça dure une dizaine d'années aussi. C'est un peu votre chiffre clé, en tout cas sur le début de votre carrière. Après, vous reconnectez avec l'e-commerce. C'est un peu presque inattendu parce que vous rejoignez pas un très gros groupe. Non, c'est plutôt un disrupteur à l'époque que vous rejoignez.
Oui, je suis. Moi, j'aime pas trop ma zone de confort. J'ai toujours pensé que c'est en ayant des expériences diverses qu'en fait, on optimise ses chances et ses opportunités de vie. Donc, l'audace, finalement, c'est une forme de sécurité. Et là, j'avais à nouveau un peu d'appétit entrepreneurial. Ça faisait maintenant 10 ans que j'étais chez Clarins. Et j'avais entendu parler de cette plateforme un peu émergente qui s'appelait Fil Unique. Et à ce moment-là, il y a un fonds d'investissement qui s'y intéressait. Donc, rencontre entre toutes les parties. Et je me propose pour aller diriger cette société et la faire grandir. Parce que bien évidemment, elle était petite pour moi, mais je savais qu'on pouvait la faire grandir très vite. Mais pour la faire grandir, il fallait connaître le e-commerce et connaître la beauté et les décideurs de la beauté.
Pour rappeler, c'était une plateforme d'e-commerce pour les marques de beauté.
C'est ça, c'était une plateforme dédiée à la vente en ligne de produits de beauté qui avait été créée quelques années auparavant par des fondateurs qui ne connaissaient pas la beauté, qui n'avaient pas leurs entrées auprès des marques. Et donc, elle grandissait, mais elle avait du mal à devenir une vraie plateforme qui pourrait rivaliser avec Boots ou Superdrug en Angleterre. Mm-hmm. Mais il y avait un fonds d'investissement qui y croyait. Et bien sûr, moi, j'avais beaucoup des qualifications nécessaires pour faire grandir cette plateforme. Et donc, on a fait plusieurs choses. On a d'abord, je dirais, transformer une enseigne en marque, parce que moi, je suis un homme de marque, donc je me contente pas d'un site de vente. Il faut qu'il y ait une identité, il faut qu'il y ait des services associés, il faut qu'il y ait une sorte de personnalité de ce qu'était Fil Unique. Donc, on a beaucoup travaillé, notamment sur la dimension service client, sur l'échantillonnage, sur la livraison, sur l'esthétique aussi du site.
C'est intéressant, parce que aujourd'hui, c'est presque... Pour toutes les jeunes plateformes qui se créent, c'est créer leur marque en tant que plateforme. À l'époque, c'était pas forcément le cas.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était d'abord un retailer un peu discount, donc il n'y avait pas vraiment cette idée de marque. Et puis, il faut avoir baigné pendant des années dans le monde des marques pour se dire, oui, c'est important de faire ça. Parce que dans le e-commerce, tout est important. La marque, mais aussi un bon entrepôt, les bons prix, les bons assortiments. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, beaucoup de retailers oublie la dimension marque, mais moi, je ne pouvais pas l'oublier. Un gros travail sur la marque et sur les services, un gros travail d'assortiment. Donc là, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et tout à l'heure, je vous parlais de générosité. C'est parce que je pense que j'ai toujours été loyal et professionnel dans mes relations avec mes collègues et mes concurrents pendant que j'étais pendant mes années de beauté, que j'ai pu aller les voir et qu'ils m'ont fait confiance pour distribuer des marques prestigieuses comme Chanel ou Hermès ou Tom Ford sur Fil Unique. Et puis, je n'oubliais pas l'international, parce que je crois qu'une affaire, elle est toujours plus forte quand elle a des antennes dans d'autres endroits, et je savais que la Chine, c'était là que le e-commerce de la beauté et le e-commerce en général était le plus innovant, que ce qui se passait en Chine allait arriver plus tard en Europe, et donc on a ouvert une antenne en Chine pour Fil Unique qui a fait jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de la société, donc c'est intéressant. On a même essayé de se développer en France. C'était peut-être un peu audacieux. On a racheté un site qui s'appelait The Beautist. Mais bon, on a quand même constitué comme ça une jolie plateforme qui, in fine, a été vendue à Sephora, comme Clarins Fragrance Group, d'ailleurs, ensuite été vendue à L'Oréal. Donc, mon expérience est jalonnée de sociétés qui ont été revendues, puisque Saint-Laurent, ensuite, est terminé chez L'Oréal également.
Sur le fait de travailler avec l'e-commerce, vous le disiez, vous parliez d'innovation qui est venue de Chine, mais pas seulement. Quelle est l'importance de l'innovation? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez sur l'innovation, la complémentarité entre innovation et développement e-commerce?
Alors, le retail, déjà, c'est beaucoup plus fast-paced que les marques. Il faut se remettre en cause tout le temps. La concurrence est toujours là. Le comportement client change rapidement. Et donc, c'est, je pense, une des chances, quand vous êtes un pure player comme Fil Unique, de pouvoir prendre des technologies, s'adapter, modifier le site. Et typiquement, en Chine, on se remettait en cause tout le temps parce que le comportement du client changeait encore plus vite. Donc, je pense que j'ai appris tout ce qui était... scanner les technologies et retenir celles qui sont les plus pertinentes pour coller aux besoins du client.
Comment vous étiez organisé ? Vous aviez une personne, deux personnes qui étaient chargées d'une veille. Comment on scanne justement cette innovation ?
Quand on est pure player, on est tous on board pour regarder ce qui se passe. C'est vraiment, ça peut être la direction marketing, ça peut être la direction client, c'est même les achats, c'est bien sûr l'IT, direction technique, direction générale. Moi, je rencontrais régulièrement des fournisseurs de solutions. On a pris Miracle pour faire une marketplace, on a pris Canton Square pour mieux analyser le site, on a pris des solutions de traitement bancaire, Klarna. Enfin, en permanence, on allait choisir des outils parce que l'idée n'est pas de faire tout soi-même. Donc oui, on devient en fait, on apprend à être à l'aise avec la tech. Mm-hmm. Alors quand on vient du luxe et de la beauté, souvent on est un peu prudent. Et pour une bonne raison, parce que quand on dirige des marques, il ne faut pas non plus sauter forcément sur la dernière innovation. Il y a un travail de fond quand on est une marque qui nécessite un peu de prudence et de faire des choix un petit peu plus pondérés. Quand on est un retailer, on n'a pas les moyens de ça. Il faut aller vite, il faut coller aux besoins du client.
Et vous, de votre expérience, parce qu'actuellement, en tant qu'observateur, on voit qu'il y a énormément de tests, que ce soit... Alors, aujourd'hui, il y a de l'omnicanalité qui est de plus en plus développée, mais il y a énormément de tests de la part des enseignes, de la part des pure players, sur du service, sur des solutions, effectivement, en bac au niveau de leur développement. Comment vous gérez les priorités ?
Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, les marques doivent se penser à la fois comme des créateurs de produits. Et là, il faut beaucoup de veille, il faut être à la pointe en termes de formules, d'innovation. On sait que la beauté est en train d'aller vers la santé, la science. Mmh. C'est beaucoup plus holistique. On parle de longévité. Donc, il y a tout un travail de recherche et de veille à faire pour rester performant en produit. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est les contenus. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, à une marque, vous êtes un producteur de produits autant qu'un conteur d'histoire. Donc, il faut énormément organiser et investir dans la production de contenu parce que c'est ça qui aussi fait vendre, c'est ça qui intéresse les clients. Donc, tout ce qui est immersion dans des histoires, vidéos, peut-être demain des environnements encore plus immersifs, ça c'est vraiment un gros chantier. Et puis le troisième, qui est un peu mon dada, c'est la data. Forcément, avec mon parcours, j'ai énormément travaillé à partir de la data. Quand on est un retailer, la data, c'est quand même le nerf de la guerre et je pense que ça va le devenir pour les marques. De comprendre le comportement du client, les touch points, savoir personnaliser le voyage consommateur sur un site.
Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est qu'au début du traitement de la data et de l'optimisation de celle-ci.
Oui, je pense qu'on est qu'au début, mais si j'ai un pronostic à faire, la beauté va devoir accélérer parce que, un peu comme ce qui se passe en ce moment où la fast fashion est très critiquée et impacte la mode parce que gros problème de sustainability, la beauté, il y a une sorte d'éléphant dans la pièce là qui arrive. Oui. La beauté doit intégrer le fait que il y a énormément de gaspillage. Et ce gaspillage, c'est lié au fait que beaucoup de consommateurs sont incités à acheter des produits, soit à coup de promotion, soit par impulsion, et surtout par mauvais conseil. Il y a beaucoup de consommateurs qui décrivent la beauté comme une jungle, où il est difficile de trouver le bon produit qui vous correspond. Et donc, les produits dorment dans les salles de bain et ne sont pas consommés. Et ça, c'est un vrai sujet de ESG, de sustainability, que les marques vont devoir gérer. Et la seule manière de résoudre cela, c'est d'utiliser la data et les AI pour conseiller au consommateur le bon produit qui lui correspond.
Vous voyez que l'intelligence artificielle va venir en soutien de tout ça ?
Oui, absolument.
On parle beaucoup de l'intelligence artificielle ces dernières semaines. Mais...
C'est ça. Donc, il faut coupler des datas qui sont objectives du consommateur, pas des datas déclarées, mais des datas objectives. Donc, il va y avoir des outils de mesure objectifs, comme une montre connectée, ça vous donne un certain nombre d'informations objectives. Il y aura des outils pour vraiment mesurer... la qualité de la peau, notamment, ou du cheveu, bien comprendre les comportements d'achat des consommateurs, et à partir de là, recommander des produits qui, objectivement, correspondent aux consommateurs. Ça, c'est dans la relation consommateur. Et puis après, quelque chose que je crois Insights fait très bien ici, Insights Luxury, c'est aussi fournir un maximum de données aux marques pour que les lancements produits soient pertinents. Parce qu'on sait, un des autres gaspillages, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs dans les lancements produits. Et ça, c'est aussi un sujet pour le respect de la planète.
Ça, vous le voyez arriver, effectivement, dans le textile. On voit que la consommation textile et les volumes textiles mis sur le marché font peur et alertent de plus en plus de consommateurs. Vous le voyez arriver sur la partie beauté.
Je pense que c'est d'abord la mode qui est concernée, mais je prévois qu'à 5 ans, les marques vont devoir et vont être questionnées sur la qualité de leur lancement et la qualité du conseil prodigué. Il faut qu'on aille vers une consommation plus responsable. Ça n'empêchera pas que la beauté puisse rester tactile et... qu'on puisse se faire des petits plaisirs, mais il faudra qu'une partie, en tout cas, de cette consommation soit plus responsable. Je pense aussi qu'on va vers une beauté plus personnalisée. Donc, il va y avoir des solutions qui vont permettre de mieux coller aux besoins spécifiques des consommateurs.
Donc ça veut dire aussi, c'est déjà un marché assez éclaté en termes de nombre de marques, mais ça veut dire encore plus de spécialisation dans les marques ou des marques existantes qui devront se positionner comme aujourd'hui des marques de mode sont obligées d'avoir un discours plus précis.
En fait, on a vu depuis 10-15 ans l'émergence des indie brands,
oui.
qui d'ailleurs ont beaucoup fait partie des assortiments des pure players, puisque c'était les premiers à les distribuer. Les indie brands répondaient à des besoins plus segmentés. Vous me demandiez ce que je faisais maintenant. Bon, parmi les activités que j'ai, je suis non-exec, donc au board de plusieurs marques indépendantes. L'une d'entre elles, c'est Secret de Loli, qui est une marque dont on parle beaucoup, lancée par Kelly, qui est une Black Power entrepreneur extraordinaire. Et elle a repéré... les grands groupes avaient négligé les cheveux texturés, frisés, crépus, et elle a créé une marque qui répond à ces besoins.
Et ce sont vraiment des besoins qui n'étaient pas adressés par les...
Ils étaient très mal adressés. Est-ce que c'est parce que le management de ces marques n'était pas assez inclusif ? Est-ce que c'est parce que... il n'y avait pas assez de données qui montraient ce potentiel. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de data, il faut objectiver les besoins et à partir de là, je pense qu'on aura des taux d'échec plus faibles dans les lancements de produits de beauté.
Vous me disiez, vous êtes au conseil d'administration de 5 ou 6 startups aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si derrière ce sont toutes des startups, mais parce qu'elles ont peut-être différentes tailles. Mais justement, aujourd'hui, c'est les enjeux de ces sociétés-là. Vous leur dites quoi ? Vous leur dites de se focaliser sur certains marchés ? Vous leur donnez quel conseil ?
Alors moi, j'apporte des conseils stratégiques et financiers, en fait, à des sociétés, mais aussi à des fonds d'investissement dans ce secteur de la beauté et de la wellness. Quand il s'agit de conseiller des entrepreneurs, moi, j'aime bien leur dire qu'il faut planter quelques drapeaux. Il ne faut pas rester que français, mais il ne faut pas non plus chercher à être forcément global tout de suite. C'est compliqué de réussir à l'international, donc il faut y aller marché par marché. De même, il ne faut pas forcément avoir une inflation de nouveaux produits. Il faut avoir quelques bons EUO products. Il faut avoir les bonnes marges. Donc, il y a quelques règles comme ça dans la beauté qui sont souvent gagnantes. Et puis, il faut aussi bien piloter le cash. Et c'est là où les levées de fonds et parfois les cessions, quand on arrive à un stade où peut-être que la croissance sera mieux assurée par un grand frère qui a les ressources, les structures. Et donc, le timing est important. J'ai accompagné une start-up qui s'appelle La Chilée, qui très vite s'est imposée comme le leader en France des gummies vitaminés.
C'est quoi les gummies parce que...
Bon, les gummies, c'est des pâtes à mâcher. Oui. Donc, au lieu d'avaler des pilules, on suce cette pâte à mâcher. Et c'est plus agréable, c'est sucré, c'est sympa. Et puis, ils avaient fait des packaging très colorés. Oui. Les formules étaient efficaces. Et ils ont très bien articulé... un peu avec quelques-uns de mes conseils aussi, mais le lancement entre les pharmacies et le online. Et on a réussi une très belle sortie. Au bout de 3-4 ans, la marque a été revendue à Cooper Laboratories. Donc voilà, un exemple d'accompagnement à la fois stratégique et financier sur une marque.
Vous disiez, vous êtes aujourd'hui entre les marques, entre les groupes et avec les fonds d'investissement ou les investisseurs. Qu'est-ce que vous voyez actuellement? Les deals sont moins nombreux, c'est plus compliqué d'aboutir au niveau financier et au niveau des acquisitions. Qu'est-ce que vous voyez actuellement? Comment vous analysez le marché? Pour la beauté spécifiquement, est-ce qu'il y a un rythme qui est un peu différent? Il y a des prérequis qui ont un peu changé depuis quelques mois?
Alors, on dit beaucoup que les choses sont plus difficiles. Peut-être. Il y a de très belles transactions. La dernière, c'est Aesop racheté pour 2,5 milliards par L'Oréal.
Petit montant.
Donc, je crois que c'est la plus grosse acquisition de L'Oréal. Ouais. On dit que les choses sont difficiles, mais L'Oréal vient d'annoncer les résultats de son premier trimestre. Je crois que c'est plus 13 ou 14 %. Donc, la beauté est extrêmement résiliente et c'est pour ça qu'elle me passionne. Et aussi, c'est aussi pour ça que je continue à y travailler parce que les opportunités sont nombreuses. Il y a toujours des sous-segments de la beauté qui performent très très bien.
Oui. Vous pensez à quoi?
Bon, par exemple, je suis chairman d'une affaire de oral care.
Ok.
Donc le soin de la bouche. C'est une catégorie qui, un peu comme le hair care il y a 10 ans, était trustée par quelques grandes marques. Et puis on peut imaginer qu'elle va être disruptée par de nombreuses jeunes marques. Dans la beauté, il y a toujours des nouveaux marchés à conquérir. Il y a la Chine qui a été un formidable moteur de croissance. En ce moment, les parfums se développent énormément en Chine, alors que personne ne l'aurait cru il y a 10 ans. L'Inde est en train d'arriver comme un marché important, avec un acteur local qui s'appelle Nykaa, qui est une sorte de Sephora indien, qui a très très bien réussi. Non, il y a de la croissance partout, il y a des acquisitions. Sephora a donc racheté Feedunik à l'été 2021 pour s'implanter en Angleterre. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je dirais que les affaires qui trouvent des investisseurs, ce sont soit des affaires très, très saines, donc qui équilibre à la fois croissance et rentabilité, mais ça peut être aussi des affaires plus en difficulté, qui ont des soucis de cash flow et qui trouvent des plateformes en fait qui consolident plusieurs marques. Donc moi je suis au board d'une société listée à Londres, ça s'appelle Silverwood, qui est une holding qui consolide comme cela des marques. Mais il y a de l'appétit. Il faut juste être un peu plus réaliste sur les valorisations.
C'est ça,
qui s'était un peu envolé. Voilà,
était parti assez haut.
Voilà, c'est ça. Donc, si l'acheteur et le vendeur sont réalistes, on arrive à faire des transactions sans problème.
Donc, 2,5 milliards pour Aesop, c'est réaliste.
Alors, on verra quel résultat aura L'Oréal avec Aesop. Mais imaginez la force de L'Oréal pour déployer Aesop, par exemple, dans les aéroports. Et vous avez tout de suite des gains de croissance importants grâce aux infrastructures, on va dire, et aux équipes de L'Oréal.
Pour conclure, ou en tout cas pour donner une ouverture sur cet échange, l'évolution que vous avez vue ces dernières décennies du marché de la beauté, vous voyez la beauté aller vers quoi justement ? Vous disiez, il y a la partie durabilité qui va être un élément important a priori. Et comment vous voyez cette combinaison entre la technologie, l'innovation et cette partie durabilité ?
Alors moi, j'ai eu la grande chance donc de travailler chez Clarins où la notion de durabilité, d'engagement pour la nature était très présent. Et Thierry Mugler a innové depuis le premier jour, un peu par circonstance, avec le concept de la source qui faisait qu'au lieu de jeter son beau flacon, on le ramenait en point de vente et on le remplissait. Donc on disait toujours les étoiles sont éternelles chez Mugler et elles le sont. Donc ça m'a beaucoup appris l'importance de tout ce qui est upcycling, de vraiment réfléchir à l'impact sur la planète. Et je pense que la beauté va devoir aller encore plus loin avec des packaging compostables, avec vraiment une nouvelle économie du packaging, du contenant, parce que et puis également sur les formules, on sait qu'il y a eu un gros travail de nettoyage des formules. Merci Yuka et merci tous ceux qui ont œuvré pour aller dans ce sens. Donc ça, c'est un grand chantier. Mais l'autre grand chantier, ça va être l'efficacité, enfin la preuve de l'efficacité, aller vers plus de science, des essais cliniques qui vont justifier des formules et probablement œuvrer vers cette longévité qui semble exciter beaucoup de milliardaires américains, mais qui est une vraie promesse d'aller plus loin que la beauté. Je crois que la peau, c'est le reflet de la vie et on peut probablement lire dans la peau tout ce qui concerne la santé d'un individu.
Justement, l'avenir, il est un peu ce que vous avez dit en filigrane, il est vers la santé, en fait, l'avenir de la beauté.
En tout cas, il est vers une beauté beaucoup plus holistique, où le sport qu'on fait, ce qu'on mange, son niveau de stress, la qualité de son microbiome, tout ça, ça contribue à la beauté. Et un bon mental aussi, je pense que ça contribue à la beauté. On parle beaucoup de mental health, mais je pense que ça va devenir aussi un grand sujet autour de la beauté.
Joël Palix, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.
C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxure Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.
Vous venez d'écouter le podcast Luxure Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxureinsight.com et toutes les plateformes de streaming.